Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
10h en ce dimanche, c'est Aude Vernuccio qui vous informe. Bonjour Aude.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et à la une, l'état de choc à Romans-sur-Isère dans la Drôme après une violente attaque au couteau.
On compte 2 morts et 5 blessés. L'assaillant et 2 autres personnes de nationalité soudanaise ont été interpellés. Le principal suspect, âgé de 33 ans, s'en est pris à des passants dans la rue et plusieurs commerces. Et les enquêteurs ont retrouvé à son domicile des documents manuscrits à connotation religieuse. Le parquet national antiterroriste est saisi. Notre reporter Nerissa Emani a recueilli le témoignage d'Aramis, un habitant. Il connaissait Christian Vincent et son fils Julien qui géraient le café-théâtre La Charrette. C'est l'un des endroits emblématiques de la ville. Julien, 44 ans, est décédé hier matin.
C'est un moment regrettable, désastreux, ignoble. Tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'il y a de plus horreur. Vous voyez, j'en tremble. Je connais très bien le patron de La Charrette. C'est le fils que je connaissais personnellement aussi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, convivial, esprit de famille, gigantesque, un homme très chaleureux. Cet établissement est connu mondialement. Il y a des stars qui sont venues manger à La Charrette, donner des tours de chant, des dîners spectacles. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer un certain Gilbert Montagnier. C'est un acte délibéré et lâche qui a été commis.
Un témoignage recueilli par Nerissa Emani, correspondante à Lyon pour RTL. Un acte odieux qui vient endeuiller notre pays, déjà durement éprouvé, commente le chef de l'État Emmanuel Macron.
Il est 10h01, un troisième week-end de confinement pour les Français et un début de vacances de Pâques bien particulier.
Pour les élèves bien sûr, mais aussi pour tous les chrétiens de France, alors que la saison des pèlerinages devait s'ouvrir hier, eh bien Lourdes sera cette année désertée par les fidèles. Quant à la messe des Rameaux ce dimanche, elle se fera sans public, comme à Nanterre, où l'évêque, grâce à un système de retransmission en direct, vous êtes sur place, Raphaël Vantard.
Ah oui, à quelques minutes du début de la messe, Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, se concentre. Il faut, dans cette période, une double attention. Préparer la liturgie, la spiritualité de l'office, mais aussi en ce dimanche des Rameaux, mais aussi vérifier avec toutes les équipes du diocèse les aspects plus techniques.
Alors, donc nous sommes ici dans une petite église paroissiale de Nanterre et qui est attenante à l'évêché. Donc ça me permet comme évêque d'y venir sans sortir du confinement. Nous avons mis un dispositif très simple avec 2 caméras qui peuvent être commandées à distance pour permettre au plus grand nombre de s'unir à nous.
Après la bénédiction des Rameaux qui vient à l'instant de s'achever, Monseigneur Rouget se drape dans son étole rouge. Il s'apprête via les caméras à délivrer à 1 semaine des fêtes de Pâques un message d'espoir.
Alors la fête des Rameaux avec le rameau vert, la branche vivante, est déjà comme une annonce de la résurrection. Et si nous vivons une épreuve, nous savons que l'espérance est plus forte et c'est notre premier témoignage comme chrétien.
Autour de l'autel, l'évêque et les 2 prêtres qui co-célèbrent la messe gardent plusieurs mètres de distance. Au bout de l'allée, une caméra filme en permanence une branche de rameau. Plusieurs milliers de fidèles suivent en ce moment cette cérémonie depuis chez eux.
Raphaël Vantard en direct de Nanterre en région parisienne pour RTL. Alors malgré la frustration du confinement, il ne faut pas de relâchement, rappelle le directeur général de l'APHP, Martin Hirsch. Il s'est fendu d'un message sur son compte Twitter hier soir en voyant trop de monde dans les rues, des promeneurs, des flâneurs dans la capitale. Les forces de l'ordre restent mobilisées pour effectuer des contrôles sur tout le territoire.
Le dernier bilan de la Direction générale de la Santé, Aude, 441 morts supplémentaires en 24 heures.
Pour un total de plus de 7500 victimes. Par ailleurs, nous n'avons jamais eu autant de personnes en réanimation. 6800 patients sont actuellement en soins intensifs. En Ile-de-France et dans le Grand Est, on le sait, la situation est extrêmement tendue. Des cas graves vont être évacués, notamment vers la Bretagne et l'Occitanie. Partons du côté des Hauts-de-France avec vous, Antoine Decarne. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre région où la chaîne de contamination a débuté dès le 25 février, le nombre de morts a connu un nouveau bond cette semaine.
Oui, 488 personnes sont aujourd'hui décédées du Covid-19 dans les Hauts-de-France. C'est plus du double par rapport à dimanche dernier. Touché dès le début de l'épidémie, le département de l'Oise a vu mourir dans ses établissements de santé 149 personnes. Le Nord, 134, l'Aisne, 94, la Somme, 69 et le Pas-de-Calais, 42. Dans la région, le nombre de cas a également été multiplié par 2 en 1 semaine, puisque 4584 cas ont été confirmés dans les Hauts-de-France depuis le 25 février et les hospitalisations sont en nette augmentation.
Une augmentation du nombre de patients qui pousse les hôpitaux à s'organiser.
Tout à fait, avec 2035 personnes hospitalisées dans toute la région, les centres hospitaliers sont en tension, mais tous cherchent à être prêts pour accueillir de nouveaux malades. Pour cela, on fait jouer la coopération régionale cette semaine. 10 patients du CHU d'Amiens ont été transférés en hélicoptère au CHU de Lille. Cela a permis de désengorger le service de réanimation Picard, explique le docteur Christophe Boyer, patron du SAMU du CHU d'Amiens.
L'objectif depuis le début de la crise, c'est d'anticiper. Et donc par cette opération, ça nous permet d'avoir 10 places de réanimation de nouveau disponibles. Tant que nous ne sommes pas arrivés à saturation, la gestion est maîtrisée. Du coup, ce transfert de 10 patients va nous permettre de poursuivre l'accueil des patients dans les meilleures conditions.
Et ces conditions de travail, on le sait Antoine, n'ont pas toujours été optimales, mais ça s'améliore grâce à la solidarité.
Oui, alors qu'on manquait de masques et de surblouses au CHU de Lille, des bénévoles ont mis en place des ateliers de confection pour parer à l'urgence. Les entreprises aussi se mobilisent. Désormais, certains soignants portent par exemple des visières conçues grâce aux imprimantes 3D de la marque Dagoma, basée à Roubaix. Près de 20 000 visières ont été vendues au prix coûtant. Des initiatives de solidarité qui se multiplient et qui permettent aux hôpitaux de faire face à la crise.
Antoine Decarne, dans les Hauts-de-France, pour RTL. L'autre bataille, elle est économique. Et l'État fera tout pour éviter le naufrage, déclare Bruno Le Maire dans le journal du dimanche ce matin. 5 millions de salariés bénéficient désormais du chômage partiel. En 3 jours, ce sont 450 000 petites entreprises qui ont sollicité le fonds de solidarité. Alors les moyens mis en œuvre par l'État, la protection des salariés ou encore la pénurie de masques, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. On parlera avec vous, Benjamin Sportouche. Ce sera votre invité à midi dans le grand jury RTL, Le Figaro LCI.
Oui, bonjour à tous. On en parlera déconfinement aussi avec Jean-Luc Mélenchon, qui a mis le sujet sur la table en début de semaine. Mais n'était-ce pas trop tôt alors que des médecins s'inquiètent au contraire d'un relâchement dans le confinement? C'est le cas de Martin Hirsch de la PHP. Et puis, quand il y aura déconfinement, faudra-t-il utiliser les portables pour localiser les malades? Qu'en pense le député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, qui au début de la crise était plutôt dans une attitude conciliante vis-à-vis du gouvernement, mais depuis son discours s'est plutôt corsé. Hier, la France Insoumise, par exemple, lançait une opération manifestation au balcon pour dénoncer notamment le manque de moyens à l'hôpital public. Le débat politique reprend ses droits. N'est-ce pas trop tôt? Nous lui poserons la question. Que propose-t-il également Jean-Luc Mélenchon pour sortir de cette crise? Il réclame par exemple des nationalisations et le retour de l'impôt sur la fortune. Mais quid pour les petites entreprises dont certaines sont au bord de la faillite? Voilà beaucoup de questions pour Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez toujours réagir avec le hashtag Le Grand Jury. Et je vous dis à tout à l'heure, ouais, Midi, les amis.
Bah, très bien, Benjamin Sportouche, midi 13h pour Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI.
Dans le reste de l'actualité, la pandémie a fait désormais plus de 63 000 morts dans le monde. Et parmi les plus touchés, il y a l'Italie. Va-t-elle enfin pouvoir respirer? En tout cas, le nombre d'hospitalisations en réanimation est passé sous la barre des 4 000. C'est une première, notamment en Lombardie, la mortalité baisse de 10%. Légère baisse aussi des décès, cette fois en Espagne, mais le gouvernement prend toutes ses précautions. Le confinement est prolongé jusqu'au 25 avril.
Aux États-Unis, Aude, Donald Trump préfère avertir les Américains. Les prochaines semaines vont être dures.
Le pays est désormais l'épicentre de l'épidémie mondiale avec plus de 300 000 cas, dont une grande partie à New York, où l'on manque de personnel soignant. Le maire lance un appel pour venir renforcer les rangs. Il faut 45 000 volontaires. Dans une déclaration, le président américain estime que la semaine qui se profile va être vraiment horrible.
This will be probably the toughest week between this week and next week. And there'll be a lot of death, unfortunately.
Il va malheureusement y avoir beaucoup de morts malgré les moyens mis en place, ajoute Donald Trump. Rien qu'à New York, on compte plus de 1900 morts.
On passe au sport. Confinement ou pas, les vrais coureurs ne laissent pas tomber leur passion.
Le marathon de Paris devait avoir lieu ce week-end. Il est reporté au mois d'octobre. En attendant, 27 coureurs vont participer à une course un peu spéciale sur leur lieu de confinement. Oui, depuis 3 semaines, ils se lancent le défi de courir quand même dans le garage, dans leur appartement. En tout cas, ça cartonne tous les matins à 10h sur Facebook. Sylvain Charlet.
Oui, et hier matin, le coup d'envoi de la 3e édition a été donné par Bernard, l'un des 4 créateurs de ce challenge.
Bonjour à tous. Donc je déclare ouvert la session d'aujourd'hui, 10h. Surtout prenez du plaisir, moi je suis à bloc.
Bertrand, qui a réalisé hier un triathlon dans son jardin, avoue avoir été surpris par l'engouement suscité par leur initiative connectée.
On s'est retrouvé en l'espace d'une dizaine de jours avec 1500 personnes, plus surprenant encore, de 46 pays différents.
Parmi eux, Yannick qui s'est lancé dans un marathon.
Dans mon jardin, sur une distance de 41 mètres, une allée a répété 1030 fois en hommage au marathon de Paris qui devait se dérouler ce week-end.
Julius, de son côté, a eu quelques soucis avec son matériel.
Comme les magasins de sport sont fermés, j'étais obligé de prendre la corde à sauter de ma fille. Et donc la première fois où j'en ai fait, je l'ai explosé. Donc voilà.
Tous, pour cette troisième édition, devaient se déguiser. La palme revenant à celui qui se surnomme Nini Petit Canard sur les réseaux. Magnifique dans sa robe noire et ses collants rose fluo.
Distance 5 km. Et puis on se donne rendez-vous avec ce groupe de fans pour le prochain défi la semaine prochaine. Allez, bye bye, à samedi.
Nini Petit Canard, au micro de Sylvain Charlet du service des sports d'RTL.
On refera le sport ce soir, bien sûr, sur RTL. Nous sommes dimanche, donc c'est de 19h30 à 20h. Merci Aude. À tout à l'heure, 11h pour toute l'actualité, bien sûr, et RTL.fr à disposition. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Notre ciel, donc ce ciel tout bleu ce dimanche.
Ouais, c'est vrai qu'il fait très très beau sur tout le pays. Alors j'ai quelques petits nuages qui circulent sur la pointe bretonne. Ça n'écarte absolument pas les éclaircies. Même chose sur les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'il est encore une fois entre coupé de très belles éclaircies. C'est vraiment un petit filament de nuages qui passe. Mais comme ce sont les seuls que j'ai, forcément j'en parle, parce que pour les autres, pas l'ombre d'un nuage, absolument rien. Un ciel parfaitement bien dégagé, il n'y a même pas de brouillard ce matin, c'est dire. On attend simplement en fin de journée un ciel plus chargé cette fois sur toute la façade ouest, entre la Bretagne et le Pays Basque, et il pleuvra sur les coups de 21h, 22h en Bretagne uniquement, et encore pas des seaux d'eau. Pour les autres, rien que du soleil, des températures qui grimpent. 18 degrés attendus à Chamonix cet après-midi, 19 à Bastia, 20 degrés à Perpignan, 21 pour Orléans, 22 degrés à Paris et Limoges, il fera 23 degrés à Angoulême et à Auxerre et 24 degrés à Mont-de-Marsan.
Ouais, vraiment très très agréable aujourd'hui.
Bah oui.
Voilà, le ciel bleu, la douceur, mais vous restez bien à la maison, vous ouvrez les fenêtres si vous avez la chance d'avoir un jardin.
Si vous avez des fenêtres.
Je plaisante,
c'est nul.
Malheureusement, Valérie Quintin reviendra le week-end prochain avec toute l'équipe. Et son humour, et son orchestre. Quel
désolé.
Bonheur. La musique arrive sur RTL. Très bon dimanche à vous. C'est avec Vincent Perrault. Bonjour Vincent.
Non, mais Stéphane, je crois que Valérie vit très mal le confinement.
Je crois qu'il y a un problème.
Des problèmes psychologiques évidents quand même. Hein.
On s'en charge, promis.
Non, parce que pour le ciel bleu, cela dit, elle a raison un petit peu partout. Ouais. Moi, c'est les Alpes-Maritimes. Magnifique ciel bleu, pas un nuage. C'est pas les montagnes de Haute-Savoie comme la Migéra, mais une petite vallée de Provence, c'est pas mal non plus.
Merci pour la carte postale.
Pour présenter de chez soi, stop encore. Voilà.
Allez, c'est parti.
Je vous embrasse tous. Ciao.
Bye bye.